dérapé. Un certain Benito Mussolini, revanchard, va s'imposer comme le nouveau maître à bord. Francfort, fin octobre 1922. Pauline de Mitte, violon solo à l'Opéra de la Ville, vient de terminer une représentation éreintante. Les spectateurs, nombreux, ont acclamé l'ensemble musical. Et comme il est de coutume, certains VIP sont venus féliciter dans les coulisses les stars du soir. Parmi eux, Alfredo Frassati est un habitué de la salle de musique. L'ambassadeur du Royaume d'Italie à Berlin n'hésite pas à se déplacer jusqu'à Francfort pour vivre ses grandes soirées musicales. Déjà, In de Mitte commence à se faire un nom et les deux hommes apprécient de se rencontrer à l'une ou l'autre occasion. Ce soir, la donne est différente. Frassati est porteur d'une bien mauvaise nouvelle. Il vient de démissionner de son poste, aujourd'hui même. En cause, l'arrivée au pouvoir d'un certain Benito Mussolini, le leader de la mouvance fasciste. Cette doctrine politique nationaliste, l'ambassadeur ne la supporte pas. Dans quelques minutes, il devra partir. Sa place est en Italie pour résister. De son côté, le compositeur est venu à bout de son triptyque d'opéra, il y a quelques mois. Il a donné la première de son dernier volet, avec Sancta Susanna. Une page se tourne, et une nouvelle commence. Pauline de Mitte a mis sur pied un groupe qui fait un tabac en Allemagne, le Quatuor Amar, un ensemble avant-gardiste. La jeunesse les adore, et l'aventure s'annonce grandiose, du moins si l'inquiétude qui commence à poindre dans l'opinion ne vire pas la psychose. Et si ce Benito Mussolini était aussi dangereux que peut le décrire l'ambassadeur, qu'adviendrait-il de la paix? Existe-t-elle au moins alors que la guerre n'a jamais quitté certaines régions du continent? Ce soir, Paul In de Mitte est terrorisé. Il a un mauvais pressentiment. En Italie, la montée du communisme inquiète encore plus qu'ailleurs. Les nationalistes, emmenés par Mussolini, décident de réagir. Le plus étonnant, peut-être, sur cet homme au regard d'acier, c'est l'évolution de son parcours. Avant la guerre, il était journaliste, d'inspiration socialiste. Et puis, avec le conflit, les tranchées, les morts et les traumatismes, Mussolini est devenu nationaliste. Il est à l'origine de la création du mouvement fasciste en 1919, composé majoritairement d'anciens combattants, vêtus de chemises noires et armés de cannes de bois. Très vite, sa popularité explose et près de 300 000 hommes choisissent de le rejoindre. En moins de 3 ans, son poids dans l'opinion est devenu considérable. Il apparaît comme le recours le plus puissant pour contrer les communistes. Sa parole gagne les cercles bourgeois et industriels. Son credo, casser les grèves imposées par les fauteurs de troubles communistes, les rouges, comme on les appelle. De facto, ses positions radicales sur un retour à l'ordre dans les rangs des ouvriers plaisent aux grands patrons nationaux, comme celui de Fiat. Le 28 octobre 1922, la marche sur Rome, une grande organisation populaire, doit lui donner l'occasion de s'imposer. Coup de théâtre, la manœuvre fonctionne. Acculé, le roi Victor Emmanuel III lui donne les clés du pouvoir. L'Italie est le premier pays à basculer dans les griffes du fascisme. Il ne sera pas le dernier. En Espagne, les militaires prennent aussi les commandes et instaurent une véritable dictature. L'un de leurs plus grands dignitaires n'est autre que le tout jeune général Franco. 1923 est aussi une année charnière en Allemagne. Dans le même esprit que les Italiens, les anciens combattants du Reich s'unissent. Ludendorff, qui les a menés au combat, s'est associé avec un mouvement politique naissant qui prend de l'ampleur, le parti nazi. Mené par Adolf Hitler, il gagne en légitimité grâce à ce soutien militaire. Son premier combat, une lutte contre les communistes, comme en Italie, mais aussi la dénonciation du traité de Versailles. On y revient toujours. Cette paix impossible est mort-née. Dès la ratification de 1919. Hitler dénonce l'occupation des vainqueurs et la spoliation de certaines ressources allemandes, comme le charbon en Ruhr. La crise économique et l'inflation galopante dans le pays favorisent la percée de son discours et de ses idées nationalistes. Le 9 novembre, il estime qu'il est temps d'agir. Il tente de prendre le pouvoir dans un coup d'État qui échoue lamentablement. En prison, Hitler se fait oublier pour un temps. Il va y théoriser son combat politique et écrire Mein Kampf, son manifeste. Mais cela est déjà une autre histoire. Au crépuscule de la Grande Guerre, cette période méconnue de notre histoire, qui ne durera que quelques années, est pourtant on ne peut plus importante. Elle est une véritable charnière qui permet d'expliquer la colère et le ressentiment de bien des peuples face à une paix impossible. 1923 marque la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Ce sera celui du triomphe des nationalismes et de la marche en direction d'un terrible conflit. La Première Guerre mondiale devait être la der des ders, plus jamais ça. Ouais, mon œil, ouais. Si l'humanité pensait avoir touché le fond dans les tranchées à Verdun, à compter du début des années 30, les limites ne vont avoir de cesse d'être repoussées et l'horreur va de nouveau s'imposer dans toutes les mémoires. Elle emmènera avec elle des dizaines de millions de morts.